Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salutations mes amis.
Salut Clara.
Dis Alex, on n'avait pas dit qu'on faisait venir un autre chroniqueur aujourd'hui?
Si, je sais pas ce qu'elle fait là.
Ah, mais Clara, t'étais pas déjà là hier?
Oh, si. Mais c'est le ciel et la terre de vous revoir.
Ah oui, bah on est content de te voir nous aussi, mais enfin...
Comme j'ai trouvé en fait mon intervention assez pertinente hier, je me suis dit que vous pourriez avoir besoin de mon expertise pour la suite des florilèges.
Écoute, tu tombes bien parce qu'on travaillait sur l'émission avec Youssoufa.
Oh, un troubadour moderne.
Et Mona Chollet qui a écrit un livre sur les sorcières.
J'en connais un rayon.
Eh oui, mais on se souvient tous de la chronique magnifique que tu avais faite sur la magie, les sortilèges.
Ah bon, mais oui, celle où tu faisais un parallèle avec notre monde rationnel, rapide, logique.
Et la dualité, Charlie, ce sont les magiciens, les possédés, les apprentis sorciers.
Ah, mais j'ai écrit ça, moi.
Bah ouais, enfin, je crois.
Puis comme on s'en voulait de pas t'avoir mis dans les best-of de la dernière fois.
Oui, non, mais ça c'est oublié, les enfants. Allons.
Mais parce que tu sais, Clara, on a une très grande confiance en toi.
Et on n'est pas loin de penser que t'es la meilleure chroniqueuse de l'émission.
À tel point que vous me confondez avec Isabelle Sorante.
Pardon ?
Ah bon ?
Oui, parce que c'est elle qui avait écrit sur les sorcières.
Oups.
Ah oui, peut-être.
Mais c'était tellement bien, tu sais, Clara,
qu'on a pensé que c'était toi. Hein.
Voilà. Bonjour la France Inter et bienvenue dans les vacances de l'Open Space. Et dans cet épisode, vous verrez que l'actualité a opté pour la pension complète à l'hôtel de la blague. Hôtel où passera le rappeur Youssoufa qui va déclarer toute sa gratitude à un enseignant qui lui a ouvert les yeux. Car sous le mot-clé « Merci prof », des gens affichent le nom de leur enseignant préféré sur les réseaux pour lui rendre hommage. Et alors que les chanteurs de rap et de hip-hop ont tendance à jouer les gros bras, on a remarqué qu'ils célèbrent tous la figure maternelle avec beaucoup de tact. La maman dans le rap, c'est un sujet sacré. Nous accueillerons ensuite l'essayiste Mona Chollet à propos du fisc qui va pouvoir surveiller nos comptes Instagram et nos pages Facebook afin de débusquer ceux qui paradent en grosse cylindrée tout en déclarant un salaire qui permet de rouler en Twingo. Bonjour Alex.
Bonjour Charline, ne me regardez pas comme ça, je roule en Twingo.
Non, c'est parce qu'on est à l'hôtel de la blague,
alors
je drague au bord de la piscine.
Mais on y passe notre année.
Qui sont les chroniqueurs réquisitionnés?
Eh bien Mélanie Bauer qui parlera du CD de Youssoufa. Le moment Meurice nous emmènera à la FinTech, toujours un bon moment. Et alors cette fameuse chronique sur les sorcières modernes d'Isabelle Sorante, je vous le disais. Et on terminera par du Frédéric Fromet. Quand t'es dans le diesel, il y aurait un petit air de Jean-Patrick Capdevielle que ça m'étonnerait pas.
J'aime bien quand vous dites le CD de Youssoufa.
On dit pas CD ?
C'est tellement vintage, j'adore.
Le nouveau disque ?
Album ?
Album, le nouvel album, Opus.
MP3, Deezer, Spotify, vive la modernité, c'est parti.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Bienvenue Youssoufa.
Merci.
Votre album s'appelle Polaroid Experience, il est disponible depuis le mois de septembre. Vous êtes aussi en Experience Tour. Youssoufa, vous dites de Polaroid Experience, je pense que c'est dans la première chanson qui s'appelle Polaroid Experience. Dites, c'est pas un album, c'est une expérience. Mais expérience dans quel sens ? Est-ce que c'est l'expérience accumulée ? C'est celle qu'on tente ou on se lance ? Qu'est-ce que vous avez voulu nous transmettre avec cet album ?
Eh bien, cette question, non ? C'est pas pour flatter, mais elle est bien cette question, parce que j'aimais bien... Tu sais, le mot expérience, il est un peu ambigu comme ça. C'est-à-dire, on dit que des gens qui sont des tauliers, etc., qui ont de l'expérience, des anciens. Mais en fait, en vrai, quand on tente un truc nouveau, quand on est adolescent, ouais, non... Tire sur cette latte. Ah ouais, non, c'est une expérience, tu vois. C'est à la fois nouveau et enfin très ancien. Donc, en fait, et du coup, il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, mon background, comme ils disent les Américains, m'aide pour pouvoir, parce que c'est mon cinquième album et tout, m'aide à installer mon historique rap. Mais par contre, il y a des choses, il y a une espèce de naïveté nouvelle que j'amène dans ma manière d'écrire ou alors dans ma manière de formaliser les trucs qui est nouvelle. Donc, j'entretiens un peu cette ambiguïté du mot. Voilà.
Ça, c'est pour notamment l'écriture. Et puis, vous avez choisi de vous installer en Afrique, à Abidjan.
Ouais.
Vous êtes né à Kinshasa. Vous
Exactement.
Avez grandi là-bas jusqu'à l'âge de 10 ans.
Ouais.
Ensuite, vous êtes arrivé en France. Et là, c'est un choix de venir habiter en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Est-ce que ça a, j'imagine, beaucoup chamboulé peut-être le côté musical? Parce que là, on fait pas de la musique, on n'écoute pas de la musique.
L'environnement, il influence forcément. C'est-à-dire que ça soit faire de la musique, écrire des bouquins ou faire des films ou toute autre chose. Franchement, le fait de changer d'environnement, ça nous influence et tout. Moi, c'est vrai que ça a surpris. Moi, je suis d'abord retourné là-bas parce que ma femme, elle a eu des opportunités de travail là-bas et on voulait un peu voir autre chose.
Ouais.
Et c'est vrai que les gens, ils étaient un peu surpris et tout ça. Là, ah bon, tu pars à Abidjan, mais c'est bizarre. Pourtant, t'as tes papiers. Qu'est-ce qui se passe? pas de raison, tu vois, pourquoi tu veux régresser, tu vois, tout le... non, mais alors que non, je voulais, c'est par amour, ma femme a eu des opportunités, elle m'a toujours suivi dans ma vie, et moi, du coup, ça me donnait l'occasion de la suivre. Après, aujourd'hui, on est tellement, enfin, il y a tellement de vols tout le temps que j'ai l'occasion de vivre entre les deux. En fait, pour le travail, je suis ici, pour la famille, je suis là-bas.
Mais musicalement, vous êtes baigné.
Ah ouais, par contre, ouais, effectivement,
de différents rythmes, bah, du coup, sons et instruments.
Je rencontre des nouveaux artistes, un nouveau type de vie et un nouveau type de sonorité au quotidien. Oui, ça change un peu mon approche, ma manière de créer, ouais, clairement.
Et vous êtes aussi coach à The Voice Afrique.
Ouais, j'ai cette chance-là. Ouais. J'appuie sur des chaises et ça se retourne. Du coup, je crée. Je suis très déçu par votre siège à vous, parce que rien du tout.
vous produisez aussi des jeunes artistes. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Il y en a que vous repérez à The Voice Afrique?
Bah, je pense que, en fait, c'est par rapport, bah, oui, j'ai la carrière qui est la mienne et tout, j'en suis très fier et tout, mais je pense que c'est par rapport à mon statut un peu de producteur, de label, etc., qu'on m'a appelé pour The Voice Afrique et tout. Du coup, je fais un peu correspondre les deux, parce que finalement, l'Afrique sur les talents artistiques et tout, c'est finalement sous-exploité, et j'en découvre à travers le fait que j'habite là-bas, à travers ce que je découvre par internet, à travers ce que je découvre dans l'émission. Ça me donne un matériel en plus pour pouvoir découvrir des talents et
vous
peut-être les signer.
Le Florent Pagny africain, on peut le dire.
Ouais, ouais. Ça avec les impôts en plus.
Justement, Pablo Mira, vous n'avez pas vous demandé, vous payez vos impôts en France?
Toujours
ou
en France. Ouais,
ça
toujours en France,
ça
ouais.
Parce que...
c'est vrai. On est sur quelle assiette?
Bah, en fait, en vrai, je crois que de toute façon, changer de foyer fiscal, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Du coup, je me demande comment il a fait Florent Pagny, parce que ça se passe pas comme ça. Non, je continue toujours. Bah, je passe de toute façon beaucoup de temps en France quand même. Donc, pour l'instant, c'est toujours en France.
Revenons-en un peu au texte de cet album Polaroid Expérience. Il y a notamment une chanson, bah, je pense que c'est Devenir vieux, où vous dites « Tu peux plus rapper pour les jeunes quand t'as 40 ans, trop vieux pour tourner un clip dans un hall d'immeuble. » Vous vous qualifiez d'ancien meilleur rappeur et vous dites, j'aime bien cette phrase, « Je suis à un charbon de chicha d'être has-been. » Ça vous travaille énormément. On dirait une actrice de cinéma qui chouine parce qu'elle a 40 ans, qu'elle a plus de rôle.
Ouais, non, mais ouais, les jeunes, les jeunes premières subissent ça, les vieux rappeurs aussi. Non, mais en fait, en vrai, c'est plus une chanson c'est de l'autodérision pour se foutre un peu de ma gueule par rapport au fantasme qu'on avait de rappeur, où en fait on a l'impression qu'on aura 21 ans toute notre vie. Quand on commence à rapper et qu'on a 17 ans, on se dit, oh, putain, tu t'imagines à la retraite à 25 ans, tu vois, qu'on deviendra sage, tu vois, on sera des anciens de ouf et tout. Et en fait, non, on se rend compte qu'on fait de la musique d'une autre manière. Et moi, comme je produis des jeunes artistes et que souvent eux, bah, ils font une musique plus d'ambiance et je les accompagne en showcase dans les chichas et tout, je vois bien que vraiment, je suis à un charbon de chicha pour qu'on passe pas mon disque de là-bas. Donc je préfère m'en amuser et puis on réinvente une vie de rappeur, de rappeur trentenaire ou quadra, quoi.
Youssoupha, donc l'album s'appelle Polaroid Expérience, dont oui, Mélanie Bauer va nous parler.
Justement, je pense que c'est le moment où il faut que je change mes lunettes. C'est pas facile avec le casque, mais voilà. Souvent, le problème avec les gens qui ont décroché de la musique en 1979, c'est qu'ils n'en comprennent pas les nouveaux codes. Hashtag Zemmour. C'est d'ailleurs valable pour toutes les tendances post-radio libre, de l'électro au rap. Pour en apprécier le son, il faut un peu d'éducation. Prenons au hasard le dernier album de Youssoupha. Son cinquième, Polaroid Expérience.
En plus, il est là, c'est l'invité.
Un truc de balade.
Coïncidence?
Alors, pour bien le comprendre, il faut avoir déjà quelques notions en ego trip. Alors, l'ego trip, c'est quoi? Je réexplique pour les nuls. Oui, parce que je l'ai déjà expliqué.
Je me souviens.
D'abord, des mots. Beaucoup de mots que dans la beaucoup plus de mots que dans la chanson ou dans la pop, avec des phrases plus longues. En chanson, on rime en 3 ou 4 temps. Hein. Quand je vois Fernande, je bande. En rap, il en faut plutôt autour de 16. Je suis tellement à l'ancienne, tu vois. Je suis pas congolais, je suis zaïrois. Donc, il faut être très fort avec sa plume et ses rimes. Puis, après des années de joute verbale, en général dans des locaux un peu crado, hein, pour des batailles de vannes à faire pâlir les humoristes, les parleurs deviennent des rappeurs. Ces rappeurs qui peuvent prétendre à une identité, une spécificité. Ils affinent leur discours, travaillent encore et encore et encore leur flow et deviennent ce rappeur qui sait qui il est. Il peut se raconter, souvent au deuxième degré, parfois au premier, il se punchline, il se met à poil, il est go trip. Oui.
Regarde ma pochette. Je suis tout petit avec une grosse tête.
C'est vrai.
Avant de débarquer sur Paname, Michael
culte en rap. Ces mots VHS et Walkman sont faciles à comprendre. Dans cette chanson de type trap, un genre de rap qui n'existait pas à l'époque de la cassette, mais que Youssoupha explore aussi avec sa casquette de producteur. La cassette, si chère à Youssoupha, est encore un code important du rap. Elle est la mixtape. Elle abrite les instrus sur lesquels on freestyle, autant d'autres mots très importants en hip-hop. Youssoupha, lui, fait aujourd'hui partie de la mouvance du rap adulte, le rap dit conscient, souvent politique, sociologique, engagé, mais surtout concerné, ce que j'ai déjà sur cette antenne appelé du rap intelligent. En opposition à la variété urbaine aussi débile que l'ensemble des chansons des yéyés ou du top 50, je le dis d'ailleurs entre parenthèses pour les jeunes rappeurs, ce n'est pas parce qu'on met des effets sur la voix et des gros mots dans une chanson que ce n'est pas de la variété. C'est important de le préciser.
Le jour où j'ai arrêté le rap, moi, je n'étais qu'un rappeur dans la masse. Aucune carrière stratégique, j'attendais que ma parole marche. Mais elle était paraplégique, parfois j'hésite. Mon cœur ouvert, quelqu'un a dû le fermer mal. Je suis dans la peau d'un amnésique qui tenterait d'écrire ses mémoires. Puisqu'il y a parfois des silences qui résonnent fort comme un cri. C'est pour les quartiers de France, de Port-au-Prince, de Conakry. Et très vite, j'ai senti la douille. Je suis pas complètement inculte, tout est parti en couille. Quand rap conscient est devenu une insulte, poteau.
Donc avec Polaroid Experience, le dernier album de Youssoupha, nous sommes sur un disque selfie, très personnel, ego trip, au prisme très large en termes de son, qui va du minimalisme le plus intello du rap à la trap, en passant par la pop type chanson d'amour. Son écriture est riche, avec des chansons parfois complètement au deuxième degré, comme la très cynique Mourir Ensemble, un disque malin, tendre, curieux, avec de vraies mélodies, dans un joli français, mais aussi, je crois, en lingala, ouais, la langue bantoue de la République.
Et pourtant, j'ai mes papiers.
Démocratique du Congo, avec Nyama Nayo. Nyama, c'est le vers solitaire ?
Nyama, ouais, c'est le vers, c'est toutes les bêtes, ça peut être les animaux de manière générique, les vers solitaires, les insectes, c'est Nyama.
Ah ben j'en connais cette table des Nyama.
Vous êtes bien sur France Inter.
Oui,
vraiment.
Voilà.
Non, restez à l'antenne, vous êtes sur France Inter. Non, je recapitalise les gens, ça serait dommage de les perdre.
Voilà, on a fait le tour. À bientôt 40 ans, Youssoupha fait une musique de son âge, du bon vieux rap qui traîne des valises bien profondes d'adultes. Il voyage l'esprit bien ouvert en ne gardant que le nécessaire, la sincérité, la poésie et l'expérience.
Populaire, pourtant ma gueule est underground. On préfère rester simple, on a grandi avec peu. Cousine, tu sais qu'être humble, c'est déjà croire en Dieu. Nouvelle aventure, éclairage des tracteurs. Mais qui sont ces créatures? Je ne crains que leur créateur. Je suis pas le fils d'un tout bas, pas le fils de Zeus, pas le fils de série tout bas, je suis le fils de Dieu. Mon continent est gravement atteint et je gamberge. Je vis parmi les diamants mais je meurs dans la merde. Je suis le fils du Congo, je suis le fils de Kim. Je suis le fruit d'un complot, je suis le fruit d'un crime. J'ai eu un fils avant ma fille, ça c'est le choix du roi. J'ai eu un disque avant mon fils, ça c'est le choix du rap. Je suis un père par un mot qui flippe des lendemains à moi. Je suis un père par amour car j'ai pas vu le mien à moi. Je suis un père de famille, je suis le père de Malik. Et puis maintenant imagine que je suis le père d'Imani. Ma mère c'est ma reine, c'est cruel quand elle me manque. Je la vois dans mes rêves, dans la lumière comme elle est grande. Je suis le fils de Antoinette, c'est dans mon regard. Petit-fils de Ndiaye Sibi, fille du Sénégal, moi. Je suis le fils de tous nos disparus qui m'entendent. Je suis le fils de Yasuke et puis de toutes mes autres tantes. La musique c'est un monde, j'ai dû prendre de la bouteille. J'ai dû me faire un nom pour reprendre le pouvoir. Avant il m'appelait le fils de Taboulaye. Maintenant pour appeler Taboulaye, ils disent le père de Youssoupha. Je suis le fils béni d'un héritage énorme. Je suis le fils d'un génie, je suis le fils d'un homme. Je suis le frère de Peggy, je suis le frère de Charles. Je suis l'oncle de Houdi, je suis l'oncle de Shai. Je suis le frère de Baba, je suis le frère de Sibi. Je suis le frère de Lassana, je suis l'oncle de Nini. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois mille. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois mille. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois mille. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois mille. Tous les gens dans mon public. Ok, laisse tourner. 1,
J'ai arrêté le rap, cap sur une nouvelle vie. J'ai arrêté Paname, africaine, ma nouvelle ville. T'as peur de nos pays, tu penses seulement que ça crame. Putain, l'ouverture d'esprit, ce n'est pas s'ouvrir le crâne. Non, j'suis pas encore en retraite, mais j'suis déjà en retrait. Je reviendrai peut-être, qui s'en rappelle des teutrais. Qui doutaient de ma carrière, aujourd'hui vous êtes où? Négro, j'suis éternel comme le FC Liverpool. Moi, faire confiance aux hommes a tué mon espérance. Ceci n'est pas un album, c'est une putain d'expérience. Ex-meilleur rappeur, j'ai le micro qui grince. Désormais le meilleur rappeur, pour moi c'est Tito Prince. Tandem invincible, j'ai la meilleure prod au monde. CHI, c'est De Vinci, putain je suis la Joconde. Et l'industrie se déchaîne, je réponds pas à l'appel. Nique le boss de Def Jam, moi j'ai mon propre label. C'est pour mailler le comeback, je suis l'associé de Philo. Je suis le producteur de Que Black, je suis le producteur de Hero. J'ai jamais cru aux amitiés courantes dans la musique. Pourtant j'ai vu des concurrents contents de ma réussite. Donc je suis l'ami de Brav, je suis l'ami de Sopra, je suis l'ami de Diams, je suis l'ami de Socrate. J'ai gagné de l'argent et j'ai gagné de l'estime. J'ai plus le compte en banque pour être l'ennemi de Nesbill. Je suis l'ennemi de Valls, je suis l'ennemi de Macron, je suis l'ennemi de Ménard, je suis l'ennemi de Marion. Je suis l'ennemi de la République de François Fillon. Je suis l'ennemi de la France, Afrique et de ses millions. Je suis l'ennemi de leur modèle, je suis l'ennemi de leur morale. Je suis l'ennemi de BHL, je suis l'ennemi de Soral. Mais putain, j'attends que les poings se brandissent. Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, non, ils grandissent. Et on viendra te relever si tu tombes. Nous, on a la force du nombre. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois mille. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille.
Youssoupha, Polaroid Expérience, c'est le titre qui donne son nom à l'album. Merci.
Avec cette grande montée d'émotion sur ce titre.
Merci, voilà. Mélanie Boer. On peut vous réécouter sur franceinter.fr, bien sûr, si vous nous avez rejoint en cours du disque du titre de Youssoupha. Et les gens de votre public et donc de votre famille, comme vous dites dans ce titre, vous les retrouvez notamment au mois d'avril à Toulouse, où vous serez au Bikini le 3 avril, le lendemain à Nîmes, à la Paloma, le 10 avril à Lyon, au Transborder, le lendemain à Clermont-Ferrand, à la coopérative de mai, et à Bordeaux, le surlendemain, le Rocher de Palmer. Et on va aborder ce premier sujet. Des internautes rendent hommage à leur professeur préféré en affichant son nom sur une feuille ou un petit tableau blanc et en le postant sur les réseaux. C'est une conséquence du hashtag pas de vague, un geste chaleureux envers une profession qui n'a pas toujours l'occasion d'être valorisée. Et d'ailleurs, parfois, certains nous le rendent bien, je vous rappelle.
Je vous rends les dissertations. Alors là, nous descendons dans les bas-fonds de l'intelligence humaine. Nous retombons brutalement sur une terre épaisse et bien rude, comme l'est l'intelligence de notre pauvre Noémie, qui avec 4 sur 20 a même réussi à faire des progrès. Antoine, 5. Faudra envisager un autre établissement, je pense, à l'avenir.
Denis Podalydès dans Les Grands Esprits, film d'Olivier Ayache-Vidal. C'est un article paru dans Le Parisien aujourd'hui en France sur ce mouvement j'ai oublié le mot-clé, Alex, si vous avez le... merci prof, c'est
un ça hashtag merci prof.
Voilà, si vous voulez remercier un prof sur Twitter, merci prof. J'imagine qu'il y a l'un ou l'autre professeur qui vous a marqué, qui vous a peut-être donné envie de décrire ou autre chose.
Il y a des profs qui m'ont porté, mais je pense que c'est très répandu comme idée. C'est bien de les mettre en valeur. Il y a aussi des profs qui nous mettent un peu la tête sous l'eau. Moi, j'ai eu de la réussite parce que j'ai eu une prof qui s'appelait Madame Griot-Aubert. Oui, quand la rancune est tenace, on se rappelle des noms. Même Griot-Aubert, qui m'avait mis la tête sous l'eau. Et en fait, en vrai, et vraiment, je le dis sans aucune méchanceté, elle a eu une petite indisponibilité longue. En fait, en vrai, elle avait un petit problème. Et en fait, sa remplaçante m'a beaucoup encouragé. Et du coup, j'ai pu faire des classes littéraires qui m'ont permis d'après d'avoir mon bac L et après de faire mes études et tout. Alors que vraiment, j'étais sur le point de tout lâcher.
Quels sont vos souvenirs d'école? Vous avez fait l'école primaire à Kinshasa?
L'école primaire à Kinshasa. Et je suis arrivé en France au collège.
Ouais. Alors, la transition entre les deux, ça s'est plutôt bien passé?
Ça s'est plutôt bien passé parce que là-bas, la plupart de ma scolarité, j'ai pu la faire dans des écoles françaises. Mais bon, ça coûtait vraiment cher. C'est pour ça que je me suis... Ma mère a eu l'idée que je vienne en France. Non, il y a un souvenir qui me revient, c'est que quand j'allais dans les écoles françaises, justement, il y avait beaucoup d'enfants d'expat, etc., qui avaient un goûter à 10h, à 16h et tout. Et sauf que nous, dans notre culture, ça n'existe pas, les goûters. Et je trouvais ça trop stylé, tu vois. La goûter, le petit biscuit, la petite grenadine autour de la bouche et tout ça, je trouvais ça stylé. Et du coup, j'ai harcelé ma maman, genre en mode, moi, j'ai pas de goûter, je suis un enfant de merde, en fait. Du coup, je l'ai fait bien culpabiliser, j'ai pas goûté et j'ai dit que c'est parce que j'avais faim. Elle a dit, ah bon, t'as faim et tout. Et on arrive le matin et tout, elle me dit, ouais, ben voilà, ben, j'ai ton goûter. Et elle m'ouvre un tupperware, il y avait de la viande et du manioc dedans. J'ai dit, je vais pas sortir ça devant tous les membres de la. Elle a dit, si, puisque t'avais faim, ça sera ça ton goûter. Donc j'ai dit, je ne veux plus de goûter, je n'en ai plus
et
jamais.
J'ai été déscolarisé pendant voilà.
Donc voilà, c'est le choc des cultures à l'école, ça existe.
Choc du goûter.
Ouais, choc du goûter.
Youssoupha avec nous. Et on va terminer avec cet autre sujet. Et la figure maternelle qui est, semble-t-il, un grand classique dans le rap, le hip-hop. Dans ce milieu qui joue souvent les gros bras, l'hommage aux mamans est récurrent. Contrairement à l'autre musique qui joue les gros bras, le rock.
Oui, pardon.
Bah oui.
Non, mais c'est pas toujours un hommage, j'ai l'impression. Pour avoir entendu certains rappeurs parler de leur mère.
Sur les mamans des autres, c'est autre chose. Il y a des interrogations sur les mamans des autres.
Ah, les autres, on peut. Ok, très bien. Autant pour moi.
Je vous conseille l'article, monsieur Vizorek.
Oui,
non. Dans le rap, seule exception, nique ta mère, effectivement.
Bah voilà, c'était plutôt à ça que je pensais.
Quoique, c'est peut-être la manière.
C'est la tienne.
C'est peut-être la manière de rendre hommage chez NTM. Maman représente.
Simon, ici.
Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as sorti les fourrures?
Ce matin, je me suis présenté chez toi et l'autre folle, elle m'a empêché de rentrer dans ton cabinet.
Mais c'est normal, j'étais avec monsieur Simoni.
Ah bon, c'est normal. C'est normal que tu te renfermes avec monsieur Simoni quand ta mère est au bord du gaz.
Maman.
En plus, il n'a rien du tout, celui-là, c'est un comédien.
Arrête.
Ah, Simon, ne me parle pas sur ce ton, hein. Parce que ce soir, quand ta propre mère. Et tu pourras recevoir une paire de claques devant tous tes camarades, tu sais.
Marthe Villalonga et Guy Bedos dans Un éléphant, ça trompe énormément. Le film d'Yves Robert, c'est un article paru dans le Parisien Week-end sur le fait que le thème de la maman soit assez sanctuarisé, assez présent dans le rap. Alors Alex Vizorek le remettait ce constat en cause. Vous aussi, ou c'est vraiment un thème majeur l'écriture?
Non, c'est un thème majeur, même la figure de la maman. Le rap, historiquement, il est fait... Ben, celui surtout qui vient des États-Unis, de New York, etc. Mm-hmm. Et même qu'on a relayé en France, il est fait par des gens qui vivent dans des quartiers difficiles où on va pas se mentir, il y a beaucoup de familles monoparentales, et souvent dans les familles monoparentales, c'est la maman qui est la figure d'autorité, la figure de résistance et la figure d'effort ultime, en fait. Et du coup, au-delà même des hiérarchies entre les caïds, des grands du quartier, etc., la maman, c'est celle qu'on respecte par-dessus tout. Il y a eu des chansons, alors il y a des chansons qui rendent hommage, mais il y a des chansons même qui disent à quel point la maman, elle est thug. Je me rappelle d'une chanson d'Express D qui disait « Arrête ou ma mère va tirer ». Et il disait, en fait, en vrai, je peux arnaquer le gang d'en face, je peux tabasser tous les mecs d'à côté, mais avec ma mère, il n'y a pas moyen, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est la figure d'autorité, de tendresse et... Voilà, c'est lié à la vie sociale aussi des quartiers.
Et oui, et ça permet aussi d'amener cette touche de délicatesse, de côté touchant, une autre couleur aussi.
Effectivement, ça, il y a, c'est le côté, en fait, c'est la seule dans la course à la virilité qu'on se donne des fois dans le rap, surtout avant.
Ah bon hein, ça, ouais.
tout petit peu. C'est le moment où, en fait, en vrai, on s'achète sa petite tendresse à travers la figure de la maman.
Youssoupha, le comédien, on a envie de vous entendre dans un sketch, on a envie de jouer avec vous.
En fin d'émission, on propose un rôle à l'invité. Ouais. Là, vous avez un coup de bol, attention, vous tombez un bonjour. Ouais. Patrice Lecomte a annoncé qu'il voudrait bien faire les Bronzés 4 à la maison de retraite.
Ok.
Alors on s'est dit, on va ajouter Youssoupha dans le casting.
Mais je veux.
Attention, bon, il a dit que c'est pas encore prêt d'être tourné, mais on va essayer. Guillaume en Christian Clavier, Pablo Jean-Claude Duss, Charline en Gigi, et puis je vais faire Popeye. C'est parti.
On est bien parti là.
Alors Popeye, comment ça s'est passé avec la petite hier soir?
Écoute, je sais pas quel âge elle a, mais elle aime la...
Oui, on a compris. Bon, après, elle a 75 ans. Hein.
C'est pas un peu jeune, ouais, ça?
Je sais, parfois je me dégoûte.
Écoute, Youssoupha, moi je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique.
Ouais, surtout toi.
Et je vais te donner un conseil. Oublie que t'as aucune chance. Vas-y, fonce, on sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher.
Qu'est-ce que tu dis?
Je dis sur un malentendu, ça peut marcher.
Surtout si elle a Alzheimer.
Écoute, je ne sais pas ce qui me retient de te casser la gueule.
La trouille, peut-être.
Pourquoi je prends ton accent?
Ça n'a pas de sens.
Non, c'est mon lumbago.
Bon, allez, je retourne dans ma chambre. Aïe!
Mais vous savez ce qui va pas, monsieur Duss? C'est le planté de la béquille.
Saleté de déambulateur.
Popeye, tu devrais changer de couche.
Mais ça va pas, elle est impeccable, elle est ce matin.
Non, mais c'est pas ça, c'est la forme, ça casse un peu le personnage.
T'inquiète, ça casse pas ce qu'il y a dedans.
Ça alors, ça ne ressemble vraiment à rien. Comment vous faites ça?
Alors on fait sécher, puis on verse dans l'assiette, on rajoute de l'eau chaude et ça regonfle.
C'est bien, c'est facile à mâcher.
Merci, bon appétit.
Et puis bonne chance surtout.
Bah, qu'est-ce que c'est que cette merde?
Jambon purée déshydraté, relevé avec le jus. plus de la brandade de morue de la veille.
Ça déboucherait un chiotte.
Il est à qui cet animal?
Ses copains.
Copains?
Ses copains comme cochon, c'est son nom.
Mais bouffez-le, bouffez-le.
Eh oh, ils sont tous partis, est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Mon déambulateur? Y'a quelqu'un? Personne? Bon, quand te reverrai-je, pays merveilleux.
C'est l'heure du comique d'investigation. Ça paraît antinomique, mais il fait les deux. Il a le cul entre deux chaises, c'est Guillaume Meurice.
Et surtout quand il va à la fintech, parce qu'il investigue, et puis en même temps on rigole. Guillaume Meurice.
Donc je vais vous parler finance aujourd'hui. On est tous fans ici de finance. Charline a un album Panini avec tous les derniers présidents de la Cour des comptes, bancaire, on le rappelle. Mais la finance est ostracisée, discriminée, je dirais même. Je vous rappelle les chiffres qui sont effrayants, hein, qui sont ceux d'une enquête de l'association Trader Un Ami pour la Vie. Plus de 94% des gens préfèrent dîner nu devant Nordal Lelandais plutôt que de tourner le dos à un banquier. On en est là dans ce pays aujourd'hui, il faut que ça cesse. Comme a dit Macron, la finance n'est pas le problème, elle est la solution. Alors moi, je suis allé voir la solution, hein, c'est la fintech, on appelle ça en France. Ils se réunissaient ce matin à la Bourse de Paris. Donc Jean-Yves Courcial, si tu nous écoutes, c'est pour toi bébé. Et on commence tout de suite avec un vrai passionné.
Je suis passionné par la fintech en général, hein, tout ce qui est haut de bilan, bas de bilan. Parce que
Vous êtes passionné par ça.
Transition. Passionné de fintech, ça a toujours été un de mes domaines. Hein. Je suis business angel.
Ah, vous êtes business angel.
Depuis l'âge de 22 ans. Ah,
quand je vous dis que c'est un milieu de passionné, c'est des passionnés. Hein. Quand tu es business angel à 22 ans, c'est vraiment que tu es à fond. Alors business angel, voilà, je précise parce que ça ressemble un peu au pseudo Tinder d'Alex Vizorek. Ça pourrait, c'est pas du tout ça, c'est en fait un investisseur, voilà. Ange du business, ça a quand même un peu plus de gueule, on dirait un catcheur. Allez, on continue avec la finance, car il y avait des prix qui étaient remis en fait, notamment à cette jeune start-up qui fait quoi?
Donc en fait, on apporte de l'information immobilière pour minimiser le risque de crédit. Donc justement, pour faire en sorte que le risque qui est pris par les banques soit plus faible.
Et donc pour que les gens qui aient le moins d'argent payent le plus de...
Que les gens aient le moins d'argent puissent avoir des crédits, puisque ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui.
Ah, vous êtes plutôt au service des banques qu'au service des gens?
On est au service des banques et au service des gens. C'est dur hein, comme interview.
Vous mentez pas mal, je trouve.
Si je mens pas mal, c'est un compliment. Je suis très très content.
Dans votre métier, c'est important de mentir?
C'est pas important de mentir, il faut être capable de raconter une histoire.
Ah, voilà la finance qu'on aime, celle qui raconte des histoires. Oui, oui, et le retour sur investissement. Hein, fantômette au pays des cicaves. Moi, j'adore ça. Hein, j'adore les histoires. Et la belle histoire, c'est que cette start-up, elle avait gagné un prix qui était remis par un jury présidé par ma banque préférée, HSBC. Alors HSBC, je ne sais pas si vous connaissez, en fait, si le diable avait créé une banque, il aurait créé HSBC directement. Il y aurait Dark Vador au guichet, vous voyez un petit peu l'ambiance. Je vous conseille d'ailleurs de taper HSBC plus scandale sur un moteur de recherche. Le cartel de Medellin à côté, c'est Disneyland Paris, je vous le dis. Mais comme ils sont sympas, ils ont quand même accepté de me répondre et de répondre à la question que je me pose depuis très longtemps. Pourquoi HSBC a une si mauvaise réputation?
Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça.
C'est vrai, partout de par le monde, on dit HSBC, c'est la pire des banques.
Elle est passionnante, honnêtement, dans le monde entier, en fait, vous l'avez vu. Et c'est une passion sur ce jury. Moi, je parle de jury qu'on a...
Ça, je suis bien d'accord, mais c'est pas ma question.
Oui, mais c'est ma réponse. C'est ça, votre préoccupation, et c'est ça ma réponse.
Non, ma préoccupation, c'était plutôt l'exil fiscal.
Non.
Si, c'était plus ça.
Non, c'est pas ça le sujet.
Ah ben merde, non, mais peut-être c'est moi, je me suis peut-être planté de sujet. C'est possible, j'ai pas les compétences, de toute façon, je vous ai dit. Mais il m'a bien expliqué que ce qu'ils veulent quand même, avant tout HSBC, c'est le bien-être de tous et promouvoir des jeunes businessmen.
Parce qu'en fait, la frustration, ça a été de ne pas pouvoir les faire tous gagnants. Alors, c'est un peu tarte à la crème. Vous avez des candidats qui sont absolument super, donc on va revoir. Donc,
c'est beau ça, c'est beau.
Bah oui, c'est beau.
Mais vous êtes quasiment une ZAD, on a l'impression, là, maintenant.
Non, pas du tout. BP, une zone banking prioritaire.
Oh, c'est oh là beau, là. Une zone banking prioritaire. Quand je vous disais que c'était un milieu de poésie, quoi. Mais bon, moi, j'aurais plutôt dit zone gangrénée par l'égoïsme et la gabegie, autrement dit, sgeg. Hein, tellement, ils nous la mettent profond. If I was a man, open my body. Oh, it is dark, and then you will meet.
Anna Calvi, As a Man, c'était le choix musical de Djoubaka.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanunaker.
Voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Les filles reviennent en force dans la deuxième partie de cette émission, car nous recevons l'essayiste Mona Chollet, qui nous parle des sorcières.
Ben oui. J'étais surpris, vous disiez les filles reviennent en force alors qu'on parle de sorcières.
Mais vous allez
voir. Je suis tellement d'accord avec vous.
Vous allez voir. Tremblez, Vizorek. Bienvenue, Mona Chollet.
Merci.
On est très heureux de vous recevoir pour parler des sorcières, enfin de la puissance invaincue des femmes. C'est votre essai paru chez Zone. Alors, la sorcière, vous expliquez, c'est la femme affranchie de toutes les dominations. Donc, elle fait un peu peur aux hommes, parfois même beaucoup, jusqu'à en perdre la vie pour certaines sorcières, évidemment. Vous vous appuyez non seulement sur les sciences sociales, mais aussi sur les reflets de la société. Il y a beaucoup de références au cinéma, à la littérature et aussi à votre propre trajectoire. Première question, Juliette Arnoux.
Oui, alors donc le sous-titre de l'essai, c'est « La puissance invaincue des femmes ». C'est une formule paradoxale.
Oui, quand on part du meurtre de masse de plusieurs dizaines de milliers de femmes dans l'Europe de la Renaissance, oui, c'est un peu paradoxal, c'est sûr. Mais j'avais pas, peut-être pas envie de rester sur une note trop désespérante. C'est-à-dire que je voulais essayer de comprendre à la fois pourquoi les femmes avaient été ciblées à l'époque, pourquoi ces femmes-là avaient été jugées intolérables par la société jusqu'à être condamnées à mort, et essayer de voir ce qu'il en restait aujourd'hui, en fait, quelles traces ça avait laissé dans notre vision des femmes jusqu'à nos jours. Mmh. Et peut-être voir aussi quelles femmes continuent d'affirmer fièrement ces comportements qui ont toujours été jugés répréhensibles et intolérables. Et voilà, qu'elles peuvent être aujourd'hui des sorcières modèles, quoi, c'est-à-dire qui assument parfaitement la transgression.
Prenez la condition de la femme aujourd'hui à travers ce prisme de la sorcière et de sa genèse. Vous faites notamment assez tôt dans votre essai un parallèle avec l'antisémitisme. Mm-hmm. Les écrits d'ecclésiastiques au XIVe siècle qui disent la femme est l'alliée du diable. Je cite un ecclésiastique du XIVe qui écrit un texte à la demande de Jean XXII. Sous un extérieur d'humilité, elle cache un tempérament orgueilleux et incorrigible. En quoi elle ressemble aux juifs ? Et vous expliquez un peu plus loin, cette rhétorique devait inévitablement produire un jour ou l'autre une forme de passage à l'acte. Ça veut dire que ces écrits-là ont fait beaucoup de mal et même encore jusqu'à aujourd'hui ?
Ah oui, je crois, de manière directe. C'est-à-dire que le manuel, le livre qui a servi de bréviaire aux chasseurs de sorcières pendant des siècles, qui était le marteau des sorcières, le Maleus Maleficarum, qui était un livre terriblement misogyne. Enfin, d'ailleurs, qui dit bien le marteau des sorcières, c'est pas les sorciers le problème, c'est vraiment les sorcières, mais au-delà toutes les femmes. Oui, c'est probablement le premier best-seller de l'histoire parce qu'il est sorti très peu après l'invention de l'imprimerie et il a fait des ravages d'un bout à l'autre de l'Europe, ouais.
Isabelle Sorrente, une petite question.
Oui, j'avais une autre question. C'est pourquoi, à votre avis, la figure de la sorcière sort maintenant ? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui travaillent dessus. Il y a beaucoup de séries qui parlent de sorcières. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi maintenant ?
C'est le bouquin de Mona Chollet. Hein. Depuis que le bouquin est sorti, les gens parlent de sorcières.
Ouais, je pense que c'est l'explication la plus logique.
Non, parce que c'est une question qu'on peut se poser. Ça rendrait presque... Je sais pas, de se dire, il y a une idée qui est dans l'air, qui est très très forte, qui se traduit dans beaucoup de médias artistiques en ce moment.
J'ai l'impression qu'il y a plein de choses peut-être qui se conjuguent, c'est-à-dire d'une part peut-être le j'ai l'impression bon que déjà l'arrivée au pouvoir de Trump, c'est-à-dire peut-être le retour d'un pouvoir très brutal, très ouvertement misogyne qui a l'intention très claire d'écraser les femmes, les minorités, les
et
pauvres
de la rediaboliser en fait.
Oui, ouais. Oui, et puis qui en fait qui suscite peut-être en réaction aussi des formes de revendication de lutte elle aussi archaïque en fait des identités. Voilà, il y a plein de groupes aujourd'hui aux États-Unis qui revendiquent l'identité sorcière, qui jettent des sorts à Trump, effectivement.
Donc, que ça peut-être marche.
Ça marche.
Oh, sorcière.
C'est mon dernier espoir, probablement.
Sorcière, donc la puissance invaincue des femmes, paru chez Zone. Mona Chollet du Monde Diplomatique, on va s'arrêter avec vous sur cet autre sujet. Apprêtons-nous à être suivis par le fisc, dans le sens où le fisc va compter parmi nos followers. Oui, notre mode de vie affiché sur les réseaux sociaux sera comparé à notre feuille d'impôt pour débusquer les contrevenants. Évitez donc de publier vos selfies en Porsche Cayenne si vous travaillez à la poste, c'est un petit conseil. Autrement dit, grâce à Facebook, le fisc va être notre ami.
Vous avez été saisi récemment ?
Non, pourquoi ?
Parce qu'il y a des traces plus claires sur les murs, comme si on avait retiré des tableaux.
Il voit tout, il est formidable.
C'est fini, oui ?
Il y avait un bibelot, là. Il y avait un bibelot. Ça se voit, la poussière autour.
Je vous l'avais dit, c'est un formidable professionnel. Bravo, Lucien.
Tu vas me faire rougir, François.
Sois pas modeste, Lucien. T'en as quoi, c'est d'autres des frondeurs.
Jacques Villeray, Thierry Lhermitte et Daniel Prévost dans le Dîner de cons. Voilà, donc l'idée de Gérald Darmanin, il l'a annoncé ce week-end, c'est que le fisc va pouvoir explorer nos comptes Instagram, Facebook, etc. Et regarder si, par exemple, on se retrouve souvent sur un yacht ou toujours dans la même villa qu'on n'aurait peut-être pas déclaré au fisc. Alors, est-ce que vous y trouvez une atteinte aux données personnelles, vous, ou est-ce que finalement ce qu'on publie, c'est public ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Comment vous réagissez, vous
C'est du pur génie. on peut qu'est-ce s'incliner devant un génie pareil. Non, je ne sais pas. Est-ce qu'il ne ferait pas mieux de feuilleter la presse People pour commencer enfin, oui, je ne sais pas.
Ça, c'est public, ça.
Le yacht de Bolloré. C'est juste une idée comme ça.
Effectivement, non, sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui ont fait un petit coucou à Gérald Darmanin en disant « Coucou, ça, c'est le yacht de Bolloré qui échappe au fisc. Commençons par là. » C'est vrai.
Mais alors, la question, c'est est-ce qu'ils vont avoir droit à plus d'infos que ce que les gens donnent ? C'est-à-dire que quand vous avez un profil Facebook, vous pouvez décider qu'il n'est vu que par vos amis. Et donc, à ce moment-là, je pense que le fisc n'y a pas droit. Mais par contre, vous avez des profils ouverts. Et à ce moment-là, effectivement, c'est vous-même qui choisissez de donner vos informations, d'une certaine manière.
Mais le fisc n'aura pas le droit de passer par-dessus.
Il va se gêner, ma petite dame. Je ne sais pas.
Ah, mais il pourrait prendre un faux nom en disant oui. Je m'appelle Mistinguet Sylvain, prends-moi comme ami et bam.
Exactement. Sur moi, tous les Mistinguet Sylvain.
On pourrait payer des gens avec nos impôts pour créer des faux comptes Facebook et devenir amis et pouvoir espionner. C'est bien, non ?
C'est bien, ça fait de l'emploi.
C'est vrai que c'est tentant
bonne
d'essayer de tromper.
L'argent public.
C'est tentant de tromper le fisc. Alors, ça vous vaudra un contrôle fiscal, mais de faire une espèce de montage, de publier régulièrement une photo sur un yacht, une photo dans une
Porsche. C'est très marrant un contrôle fiscal.
Depuis un ding dong, vous avez une Twingo, non ?
S'ils suivent le compte de Charline, ils doivent de l'argent à Charline, à mon avis.
C'est déplacer le problème, selon vous, Mona Chollet. Voyez ça comme quelque chose d'un peu incongru ou une annonce un peu.
Oui, je crois que c'est la même logique partout. Ouais. Moi, c'est vrai que je suis suisse d'origine et dans mon pays, on va voter le week-end prochain, je crois, sur la possibilité de surveiller les bénéficiaires des allocations sociales. Donc, oui, c'est la même logique partout. On est un an après les Paradise Papers et rien n'a bougé. Dans le Monde Diplomatique, on a fait un article récemment sur qui récapitulait tous les cadeaux faits aux entreprises depuis, pas mal d'années dans l'idée de les inciter à embaucher avec des résultats spectaculaires comme on peut voir. Donc oui, c'est toujours la même logique de fliquer les pauvres. Oui.
Isabelle Sorrente.
Charline.
Oui, quoi de neuf ?
Alors, nous croyons vivre dans un monde rationnel, mais ce n'est pas vrai. Nous sommes en permanence troublés, affectés, bouleversés par des sortilèges.
Ce n'est pas Mona Chollet qui nous dira le contraire. Et notre monde rapide, rentable, logique est peuplé de magiciens, de possédés et d'apprentis sorciers. Alors l'apprenti sorcier, vous le connaissez tous, hein, c'est celui qui ne maîtrise pas son pouvoir. Il croit bien faire, mais chaque fois qu'il essaie d'enchanter le monde, l'empreinte carbone augmente, la température chauffe, un immeuble s'écroule, une émeute éclate, un musée brûle, avec tous ses trésors, parce que l'apprenti sorcier est en permanence déchiré entre son avidité et sa générosité, entre sa satisfaction immédiate et sa survie à long terme. L'apprenti sorcier ne peut pas choisir son camp. Tantôt il s'éclate, tantôt il regrette, et tantôt il s'éclate, et tantôt il regrette. Bon. Il ne maîtrise pas son pouvoir, voilà, pas du tout, il rend tout le monde malade, il souffre, il fait souffrir. Beaucoup. Et il y a aussi le magicien qui veut vous vendre quelque chose. Alors lui maîtrise déjà mieux son pouvoir. Il connaît la force du verbe et la puissance du nom. Il peut vous en parler des heures, de la force du verbe et de la puissance du nom. Il est payé pour ça, il travaille dans une agence de communication. Et voilà comment, après de longues et épuisantes cérémonies secrètes, les magiciens, conscients de la puissance du nom, décident de baptiser un smoothie innocent ou une infusion en bouteille honnête. Innocent et honnête, deux marques dont Coca-Cola se trouve être le principal actionnaire. J'imagine les longues cérémonies secrètes au cours desquelles les magiciens, leur dépuisant brainstorming, c'est-à-dire des tempêtes volontairement déclenchées sous leur crâne, finissent par revenir à la formule toute simple inscrite sur la bouteille d'Alice au Pays des Merveilles, la formule qui dit « buvez-moi ». Et la question magique, que promet le smoothie innocent? Quel est le pouvoir du thé honnête? Est-ce que le fait de boire va me rendre sur le champ mon innocence et mon honnêteté? Ou bien c'est le contraire, je suis une cible difficile et le revêche. Et ce que le mot magique me dit, c'est « bois-moi, je suis innocent ». Cet arrière-goût chimique qui colle à ma réputation fait qu'injustement tu te méfies de moi. Cet arrière-goût d'avidité dans ta bouche est une erreur de perception, crois-moi, bois-moi. Alors moi je ne bois pas. Si encore ça s'appelait dégueulasse ou fin du monde, l'humour me rassurerait. Mais innocent et honnête, je trouve ça brillant. Vraiment brillant, vraiment trop brillant. Un peu comme une pomme rouge offerte par une sorcière qui vous endort pendant 100 ans. Et puis il y a la longue cohorte des possédés du temps. Là ce n'est plus un conte, c'est une vraie malédiction. Lancée plusieurs fois par jour, comme si chaque seconde de votre vie devait être rentable. Temps de lecture, 2 minutes, malédiction. Temps de cuisson, 3 minutes, malédiction. Temps de trajet, 4 minutes. Malédiction, temps d'attente 5 minutes, malédiction et le burn-out au bout, l'infarctus, le stress, ce genre de choses sympathiques. Et pourquoi ce temps gagné? Pour produire quoi? Pour oublier quoi? Pour ne pas s'arrêter? Pour ne pas voir quoi? Malédiction. Bon. La sorcière et activiste Starhawk dit que la magie, c'est être capable de transformer la conscience à volonté. Mais maîtriser son propre esprit, n'est-ce pas la plus ancienne définition de la sagesse? Ce n'est pas la magie qui rend irrationnel, c'est oublier son existence qui finit par nous rendre fous.
Isabelle Sorrente, bravo. Mona Chollet avec nous et on va poursuivre sur un thème qui est connexe. Les Coréennes du Sud rassemblent tout le maquillage qu'elles ont accumulé pendant des mois, parfois des années, pour le piétiner aujourd'hui, le casser, le jeter, comme on brise un corset, disent-elles. Il y a aussi un hashtag sur Twitter, celui du standard de beauté strict qui leur est imposé. La Corée, c'est le 8e marchand mondial du produit cosmétique, c'est donc une petite révolution.
C'est toujours pareil, hein, ça, quand on n'est pas une grande connasse à mes 75, avec des seins comme des obus, alors on est rien, on est que moche. Bah oui, 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 bah, moi j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et je suis un pot à tapin, mais je réclame le droit de vivre, voilà. Merde.
Christian Clavier dans le Père Noël est une ordure. Elle a pas un rire de sorcière, Juliette. C'est un article publié sur parimatch.be. Voilà, sur les Coréennes qui rassemblent leur maquillage, qui le piétinent, qui le fracassent, qui le jettent et qui montrent au monde entier qu'elles le font. Détruire son maquillage, alors c'est amusant parce que ça arrive au moment où en France, il y a une gamme de maquillage pour les hommes. Donc on a un petit peu perdu. vous aviez vu ce mouvement en Corée, Mona Chollet?
Oui, j'avais vu.
Vous lisez Paris Match Belgique?
Ça, c'est quand même une info déjà.
Je l'ai lu ailleurs, mais pardon, oh, j'ai insulté la Belgique. Mais non, c'est assez ironique parce que je crois que les Coréennes, vous ouvrez n'importe quel magazine, c'est toujours l'exemple qu'on vous donne en fait. C'est-à-dire faites comme les Coréennes. Les marques cosmétiques coréennes, c'est toujours, elles sont toujours censées être précurseuses et lancer les nouveaux produits que toutes les autres vont imiter ensuite. Donc le fait qu'elles se révoltent, oui, c'est bien. C'est vrai que il y a toujours quand même ce côté un peu intrigant, c'est-à-dire pourquoi est-ce que le visage d'une femme n'est pas acceptable au naturel alors que le visage des hommes l'est parfaitement.
Sauf Alex, quand même.
Oh oui, on peut toujours avoir
ne
des...
Ne dites pas oui, vous. Moi, je vous soutiens.
Non, pardon.
C'est le début.
Non, c'est un malentendu.
Mais vous avez déstabilisé Mona, c'est malin. On était parti sur une belle idée.
Non, et puis je crois aussi qu'elle certaines parlaient des substances parfois très toxiques qu'il y a dans tous ces produits en fait. Et c'est assez amusant quand, comme moi, on lit régulièrement la presse féminine de voir comment toutes les espèces de contorsions pour persuader les lectrices que en fait non, toutes ces substances, les perturbateurs endocriniens, c'est totalement inoffensif. Ne passez pas aux produits bio parce que les huiles essentiel, c'est quand même très dangereux. Donc,
c'est-à-dire rester maquillée, oui. Mais ce sera bio, c'est ça ?
Bah oui, je crois qu'il y a un problème simplement avec les annonceurs, c'est que c'est compliqué de parler honnêtement de ces questions-là. Mais le fait que des Coréennes soulèvent ce problème-là aussi, entre autres, parmi les raisons qu'elles ont de balancer tout ça, ouais.
C'est-à-dire, on est vraiment dans une révolution mondiale pour la femme qui se libère de tas de carcans, du sol au plafond, hein, des pieds à la tête.
Peut-être, ouais, ce serait intéressant que la question de la beauté arrive sur le tapis aussi après. C'est vrai que les Coréennes, elles ont aussi été très, mises à rude épreuve parce qu'il y a eu récemment, il y avait eu ces manifestations contre le fait qu'elles étaient filmées par des caméras espionnes un peu dans les toilettes publiques.
Il y a une petite habitude chez une partie des Coréens du Sud, c'est de porter une mini caméra et de filmer les femmes aux toilettes ou de parvenir à les filmer dans les cabines d'essayage et ensuite de diffuser ce contenu comme contenu pornographique. Ouais. Donc.
Oui, donc ça s'inscrit dans un ras-le-bol plus général d'un climat sexiste.
Qui a peut-être été déclencheur de tout ça.
Petite habitude chez sans doute certains Coréens, tous les Coréens.
Mais c'est ce que j'ai dit. Hein.
Oui, non, mais vous avez l'air de quand même dire.
Non, j'ai dit une petite partie. Je n'ai pas dit.
C'est la coréanophobie. Oui,
j'ai ressenti une petite partie.
Oui, j'ai pas généralisé. Beaucoup de Coréens qui nous écoutent aujourd'hui qui vont être très déçus.
Qui n'ont jamais utilisé une caméra.
J'ai pas généralisé. Non, hein, non, on est d'accord.
Non. Non, mais Alex s'est senti visé, donc avec ses petites caméras.
Et voilà. Des amis.
Bon, très bien. La sorcière ne se maquille pas.
Oh, la sorcière fait un peu ce qu'elle veut.
Oh oui, c'est vrai.
Ben si, parce que sinon, à ce compte-là, Dolly Parton n'est pas une sorcière. Or, Dolly Parton est une sorcière, donc elle fait ce qu'elle veut, la sorcière.
Elle se fait des... Oui, c'est vrai. Elle est indépendante, elle est libre, voilà. Merci beaucoup, Mona Chollet, d'avoir passé cette heure avec nous. Je rappelle votre excellent essai qui s'appelle « Sorcière, la puissance invaincue des femmes ».
Toujours la puissance.
Toujours.
Maximum de puissance, ce livre.
Les gens chez le libraire, ils vont dire à leur libraire « la puissance ». Vous n'avez pas la puissance. Non, ça s'appelle « Sorcière », au pluriel. C'est Mona Chollet. Paru chez Zone. Et on rappelle aussi la lecture du Monde diplomatique qui paraît tous les mois, évidemment. Moi, j'aime bien les vacances parce que tous les jours, il y a du Frédéric Fromet.
Voilà, et on peut fredonner. Et vous allez fredonner une chanson que vous connaissez certainement, du Jean-Patrick Capdevielle, Quand t'es dans le diesel.
Eh bien, afin d'évoquer les gilets jaunes, je me suis lancé dans l'autopartage de chansons avec Jean-Patrick Capdevielle.
Oh là là.
Ouais. Quand t'es dans le diesel, depuis trop longtemps, tu te demandes comment faire quand t'es toujours plus taxé que tu dois manifester avec vos pieds. Toi tu roules au diesel, tu pues depuis toujours, et ceux qui t'encourageaient te disent de faire demi-tour à trottinette avec leur barbe de 3 jours. Toi tu claques ton salaire à la station Shell, comme si tu conduisais un convoi de tractopelles, comme si tu tournais dans des racines et diesel. Quand t'es dans le diesel, depuis trop longtemps, tu te demandes comment faire pour dire que t'es pas content, soutenu par Nicolas Dupont-Aignan. Aujourd'hui c'est ta poubelle qui peut plus prendre la route. Demain ce seront les chaudières au fioul qui seront à août. Ta femme pourra plus dire j'ai un poil à mazout. Souchon aura beau chanter fioul sentimental, Edith Piaf emporté par le fioul, tu t'en fous pas mal. T'écouteras pas ton autoradio sans gasoil. Quand t'es dans le diesel, depuis trop longtemps. Tu te demandes comment faire sur une départementale aux côtés du Rassemblement National. C'est pas que tu sois plus honnête qu'un garagiste ou total, mais t'as du mal à encaisser l'injustice fiscale. La fin de l'ISF t'a rapporté que dalle. Quand les riches s'enrichissent et que tes fins mois sont rudes, Ségolène Royal dirait perdu sous d'autres latitudes. C'est pas très populaire le goût de la taxitude. Quand t'es dans le diesel depuis trop longtemps, demande comment faire, c'est pas une perquisition, tu n'as pas besoin de Jean-Luc Mélenchon. Quand t'es dans le diesel depuis trop longtemps, tu te demandes comment faire pour mettre le bololo sans passer pour un coup anti-écolo. Quand t'es dans le diesel depuis trop longtemps, non, je comprends que pour toi l'essentiel, ce n'est pas d'être élégant, sinon que ferais-tu avec un gilet jaune?
Ainsi s'achève cet épisode des vacances de l'Open Space. On dirait un truc à B Productions.
Mais il y en a une autre demain.
Oui, on se retrouve demain avec l'économiste Julia Cagé et l'acteur Pierre Ninet.
À demain.